Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Eh bien bonjour Louis Amar, bonjour à tous.
Édition spéciale Formule 1 ce dimanche. Vous avez suivi ce matin le premier Grand Prix de la saison. C'est Valtteri Bottas qui l'a emporté en Australie. On débriefe ce premier épisode en longueur et vous entendrez tous les principaux pilotes. Et puis après la F1 à 13h45, la moto et l'endurance au programme de Radio Paddock. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News. Bienvenue dans Motors. Adrien Tambay est avec nous. Salut Adrien.
Salut Louis, salut Jean-Luc, salut, salut à tous.
De la Dream Team RMC Sport, ça fait plaisir de te retrouver. Pas trop fatigué?
La rentrée des classes, non, en pleine forme. Couché 22h hier, Excellent. Prêt pour le départ ce matin. Pas de soucis.
Magnifique. Dans un instant, on revient donc sur le Grand Prix d'Australie. Mais d'abord, un direct en cours en ce début d'après-midi. C'est du rugby, la suite de la 19e journée de Top 14. Clermont-Pau. Salut Julien Théier.
32 minutes de jeu sur la pelouse de Marcel Michelin à Clermont. Pau qui menait 6-0 face au Clermontois grâce à deux pénalités de son demi-ouverture Antoine Astoy. Clermont est à 14 contre 15 jusqu'à la fin du match suite à un carton rouge infligé à son deuxième ligne sud-africain Flip Van der Merwe. Mais à l'instant, la réponse clermontoise qui n'était pas arrivée depuis le début de cette rencontre, l'essai auvergnat inscrit par le 3 ligne Fritz Lee sur une magnifique action initiée par l'arrière Fidjian Twikouvou qui perce la défense paloise et qui en tombant parvient à transmettre à son troisième ligne qui va conclure quasiment sous les poteaux. Ça fait donc 6-5 pour Pau ici à Clermont. C'est quand même une belle petite surprise, mais c'est pas fini. 33 minutes de jeu, Morgan Parra de retour sous son maillot jaune et bleu s'apprête à tenter la transformation de cet essai pour peut-être donner l'avantage à Clermont pour la première fois cette rencontre. Pour l'instant, après 33 minutes, c'est Pau qui mène ici à Clermont 6-5.
Merci Julien, à tout à l'heure. 10 équipes, 20 pilotes, 21 courses. Le cirque de la F1 traverse donc en Australie son premier week-end de représentation. Si vous n'étiez pas debout à 6h10 ce matin, Adrien et Jean-Luc, eux, étaient bien là.
Valtteri Bottas, vainqueur formidable de ce Grand Prix d'Australie maintenant pour le pilote finlandais avec 21 secondes d'avance sur Lewis Hamilton serré de près par Max Verstappen. Voilà, c'est la joie pour Valtteri Bottas, applaudi par Toto Wolff et par Esteban Ocon depuis les stands. On attend maintenant le duo et le duel entre Lewis Hamilton, toujours deuxième de ce Grand Prix. Voilà, il sort maintenant du dernier virage. Il va assurer la deuxième place et le doublé de Mercedes devant un Max Verstappen revenu à une seconde seulement.
Donc, en direct sur RMC pour le premier Grand Prix de la saison. On vous en rappelle le classement victoire de Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux Ferrari de Sébastien Vettel et de Charles Leclerc sont 4e et 5e. Kevin Magnussen sur sa Haas est 6e. Hülkenberg, Raikkonen, Stroll, Kvyat complètent le top 10. C'est un Français qui se retrouve juste aux portes des points. Pierre Gasly, 11e. L'autre Français, Romain Grosjean, a abandonné comme Daniel Ricciardo et Carlos Sainz. Et puis, puisque ça compte maintenant, sachez que c'est Valtteri Bottas qui a réussi le meilleur tour en course. Il empoche donc un point de plus. Comment vous avez trouvé, j'en perds mes mots, ce premier Grand Prix, messieurs, Jean-Luc?
Eh ben écoute, intéressant. Effectivement, si on regarde le résultat brut, on va se dire que Valtteri Bottas, ayant pris un excellent départ et ayant dominé son équipier Hamilton, à la surprise générale, parce que très sincèrement, on ne s'attendait pas à ça. Ensuite, la course a été limpide pour lui, puisqu'il n'a fait qu'accroître son écart, creuser un écart qui a atteint environ 25 secondes et maîtriser parfaitement la course. Mais voilà, derrière, Hamilton, apparemment, qui n'avait pas de problème particulier, a été à peine capable de résister donc à un retour de Verstappen, qu'on connaît très conquérant, je dirais, comme d'habitude. Hein, le talent est là. Ça démontre aussi que la Red Bull à moteur Honda est performante. Enfin, là, on survole très rapidement.
Ouais, mais il faut.
Le petit souci, c'est Ferrari, bien sûr, puisque les Ferrari, à près d'une minute quand même, c'est-à-dire qu'on a pris en course une seconde par tour. Il y avait 58 tours à parcourir. Et puis, on voit que Charles Leclerc est au moins du niveau de Vettel, puisqu'on a dû le retenir sur la fin. Ça y est, c'est admis. On a officiellement dit, on l'a calmé pour ne pas qu'il attaque son leader. Donc on a les ingrédients pour avoir une belle saison.
On va développer évidemment tous ces thèmes plus en longueur. On va écouter dans quelques instants Valtteri Bottas. Mais d'abord Adrien, ton sentiment aussi global sur cette course. On nous avait dit que les changements aéro notamment permettraient davantage de dépassements, davantage de spectacles, un classement plus resserré en milieu de tableau. Qu'en est-il ?
Moi, je trouve que c'est à peu près réussi quand même, parce que on a eu, si on se souvient l'année dernière, un premier Grand Prix en Australie soporifique. On a commencé direct à sonner la sonnette d'alarme après le premier Grand Prix.
Ça fait un dépassement.
Il fallait faire un nouveau règlement parce qu'il n'y avait pas de dépassement, quasi zéro dépassement l'année dernière. Et là, bon, il n'y en a pas eu 12 000 non plus, mais Verstappen a réussi à prendre l'avantage sur une Ferrari avec son moteur Honda à la régulière. Et on a vu surtout les voitures en général se suivre un peu plus près les unes des autres que d'habitude, donc sur un circuit qui se prête plus au dépassement avec de plus longues lignes droites et de plus gros freinages, il y aura des dépassements, c'est sûr, cette année. Ensuite, voilà, on va aller en détail dans tout le reste, mais moi je trouve que c'est positif.
Absolument, et ça veut dire que l'évolution aérodynamique très importante dont on a beaucoup parlé dans Motors ces dernières semaines a produit son effet, comme le disait Adrien, je crois que c'est clair. On attendra les réactions de tous les pilotes à ce sujet, mais on va dire que c'était moins difficile effectivement de se rapprocher de la voiture qui précédait. Et comme l'a dit Adrien également, quand on voit Verstappen avec sa Red Bull à moteur Honda prendre l'avantage sur une Ferrari, en l'occurrence celle de Vettel, c'est quand même un critère fabuleux.
Ce qui est très positif, c'est qu'on n'a pas entendu dans les radios les pilotes se plaindre d'une surchauffe de leur pneumatique. Oui. Et c'était le problème dans le passé, dès qu'on était à moins de 2 secondes, il s'agissait pas d'être à 5 dixièmes, hein, mais même à 2 secondes, on commençait à avoir les températures pneumatiques qui s'élevaient beaucoup trop et ensuite perdre complètement l'adhérence et jamais on récupérait de la performance. Donc je pense que c'est vraiment positif. Maintenant, il va falloir voir dans les prochaines courses.
Valtteri Bottas, vainqueur donc de ce premier Grand Prix de la saison. Ça faisait longtemps qu'il courait après un succès puisqu'il n'en avait pas signé un seul en 2018. Écoutez la joie du Finlandais au micro de Lucas Vinoy.
Pour moi, c'est la meilleure course de ma vie. Bien sûr, le départ était la clé pour prendre la tête. J'avais un très bon rythme pendant toute la course. Bien évidemment, tout cela aurait été annulé si j'avais été positionné derrière une autre voiture. Je suis vraiment très content de la façon dont s'est passée la journée, et pas seulement du résultat, parce que cela est dû à un gros travail de fond effectué avec l'équipe et ce que j'ai fait pendant l'hiver. Et je suis très heureux que les efforts finissent par payer.
Jean-Luc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant l'émission. En fait, il a gagné à la Hamilton.
Bottas. Il a pris l'avantage tout de suite.
Oui.
Et il l'a plus lâché.
Mais tu as raison, c'est un bon résumé. Alors on espère, pour l'intérêt du championnat, encore une fois, que ça ne va pas se dérouler après la message, j'y crois pas une seconde. Hein. Je pense que la réaction de d'Hamilton, on peut lui faire confiance, qui avait l'air, je dirais presque surpris et presque un peu atterré du niveau de performance de son équipier. Le travail auquel faisait allusion il y a un instant dans l'interview au micro de Lucas Vinoy, le travail mené par Valtteri Bottas, peut-être psychologique également, physique en tout cas, en termes de détermination. Il n'avait pas remporté un seul Grand Prix de toute la saison 2018. Il ne termine que 5e du championnat. Et bien là, il coiffe la 4e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Après celle d'Abu Dhabi, c'était toute fin saison 2017. Ben voilà qu'il remet en selle et voilà qu'il a aussi perturbe un peu l'ordre établi, donc c'est une très bonne nouvelle.
Il a dit quelque chose d'important avant d'arriver en Australie, Valtteri Bottas. Il a dit: pendant l'hiver, j'ai retrouvé le plaisir de piloter en s'essayant notamment au rallye. Toto Wolff a ajouté, je le cite, j'ai cru comprendre qu'il s'était saoulé 2-3 fois aussi, et ça c'est très bien, a dit le patron de Mercedes. Est-ce que t'as vu un Valtteri Bottas différent, toi Adrien, toi qui le connais bien? On rappelle que t'as été son coéquipier.
Ouais, mais déjà il a laissé pousser la barbe, donc il y a un peu plus de laisser aller peut-être que les années précédentes. Non, mais je pense qu'il a très très bien préparé cette saison et que surtout il a profité de l'hiver pour prendre un peu de recul sur les deux saisons passées, et je pense qu'il en a pris plein la tête l'année dernière et même en ce début de saison les gens rêvaient de le voir remplacé par Ocon à un moment donné, surtout en France, ce qui est presque normal,
légitime, on va dire,
ce qui est légitime,
parce qu'on est français,
mais en l'occurrence là il fait le début de saison parfait, tonitruant, et quand on sait à quel point un début de saison est important au sein d'une équipe avec son coéquipier pour prendre l'ascendant, ou peut-être pas l'ascendant, mais au moins se remettre au niveau de Lewis Hamilton et montrer qu'il est là, présent, et que c'est pas seulement un second couteau, c'est très positif. Maintenant, je vais mettre un bémol. On a entendu parler peut-être d'un souci sur la voiture de Lewis Hamilton. L'écart que je vois en course aujourd'hui entre les deux,
oui,
pour moi,
là,
est un peu trop important, et j'espère quelque part que la voiture que c'est pas la seule raison, que la mécanique n'est pas la seule raison à la défaite aujourd'hui de Lewis Hamilton, parce que sinon ça voudrait dire que Lewis Hamilton est encore supérieur à Valtteri Bottas. Bon, on verra dans les prochaines courses.
Alors, juste, je voulais rajouter deux petites choses. La première, c'est que l'écart en qualification était extrêmement réduit, un des écarts les plus réduits qu'il ait jamais eu, grâce à un premier tour de Bottas qui était fabuleux, puisque Hamilton, en se sortant les tripes littéralement, ne le devance que de 112 millièmes, ce qui est rien du tout. Donc là aussi, il avait vraiment fallu qu'il y aille, et on pensait, nous, en le commentant en direct, que Bottas avait acquis la pole. Et puis, deuxième point, il y a ce fameux point bonus pour le pilote le plus rapide en course.
C'est une nouveauté de la saison. Hein.
Exactement, et c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'on va en reparler, parce que Bottas a été le chercher, ce point-là. Il voulait pas 25 points, il en voulait 26 et il les a eus.
Il a été le chercher d'ailleurs contre l'ordre de son patron, ouais. Toto Wolff, qui avait dit, si vous êtes 1 et 2, il avait dit ça à ses pilotes, si vous êtes 1 et 2, interdiction de tenter le meilleur tour en course pour ne pas prendre un risque inutile. Sous-entendu, je n'aurais pas besoin de ce point-là. Bah finalement, non seulement il signe un doublé, mais en plus le meilleur tour en course. Tu parlais, Adrien, de peut-être un problème technique, mécanique sur la voiture de Lewis Hamilton. Écoutez le Britannique revenir sur cette course. Pour lui, c'est pas une affaire de voiture, on l'écoute.
À partir du moment où je suis arrivé au premier virage, les objectifs de la course ont changé. Le but était davantage d'amener la voiture à l'arrivée et de la faire rentrer dans les points. Pendant la course, j'ai dû m'arrêter assez tôt. Mon deuxième relais a donc été très long. J'ai conduit à l'économie pour être certain d'avoir des pneus qui me permettent de terminer la course.
Lewis Hamilton au micro de Lucas Vinoy. Dans un instant, on parle des Red Bull et de la troisième place de Max Verstappen. Mais d'abord, un tour de nos directs. On commence par le rugby. 19e journée de top 14. Clermont-Pau, Julien Payet.
C'est la mi-temps à Clermont sous la pluie. C'est Clermont qui finalement mène à la mi-temps 7-6 face aux Palois. Les Palois qui étaient les mieux rentrés dans cette rencontre. Deux pénalités d'Astoy. Ça faisait 6-0 pour Pau. Et puis ensuite, carton rouge contre le Clermontois Van der Merwe. Et l'essai pour Clermont inscrit par Fritz Lee, transformé par Morgan Parra. Clermont mène donc 7-6 sur sa pelouse à la pause face à Pau.
Le biathlon, la mass start féminine des championnats du monde à Östersund en Suède avec Julien Richard. Salut Julien.
Salut Louis, salut à tous. Ça vient de partir à l'instant. Les 30 meilleures jeunes filles du circuit de la Coupe du Monde et de ces mondiaux se sont élancées. Deux Françaises parmi ces 30 seulement, hein, Célia Aymonier et Justine Brezaz, médaillées de bronze sur l'individuel, vont tenter de décrocher une médaille pour l'équipe de France sur cette mass start.
En cours également du ski, la deuxième manche du slalom homme à Solde en Andorre sont les finales de la Coupe du Monde. Morgan Maury, salut Morgan.
Bonjour les champions du démarrage en côte. Meilleur chrono pour l'instant pour le croate qui s'appelle Elias Kolega. Il y a 4 Français dans cette deuxième manche du slalom des finales de Coupe du Monde. Il y a Julien Liseroux qui a terminé 15e de la première manche. Il y a Victor Mufajandé, 11e de la première manche. Alexis Pinturo, 5e de la première manche. Et Clément Noël qui a dominé la première manche avec une énorme avance. 84 centièmes de mieux que le Suisse Ramon Zenhausen. Les cadors vont s'expliquer dans 25 minutes, 30 minutes environ pour savoir qui va remporter la dernière course de la saison de Coupe du Monde. Clément Noël placé pour la gagne.
Merci Morgan. Pour le démarrage en côte, tu parles sans doute de Jean-Luc et d'Adrien, parce que moi, ça se voit que tu m'as pas vu conduire. Max Verstappen, lui, n'a aucun problème avec les départs, que ce soit en côte, en dévers, dans un virage, au bord d'un ravin. Il sait tout faire, Max Verstappen. Il s'est même monté sur le podium en Australie. Troisième place ce matin, on l'écoute.
C'est une course plaisante, mais bon, ici, c'est très difficile de dépasser les autres pilotes. Nous sommes parvenus à dépasser les Ferrari, cela montre que nous avions un bon rythme. On a même réussi à revenir sur Lewis, nous sommes sur la bonne voie. Bien sûr, Valtteri était trop rapide aujourd'hui, mais de mon côté, je ne peux qu'être heureux de mon podium. Mais aussi pour Honda qui décroche son premier podium depuis l'avènement de l'ère turbo-hybride. Bien sûr, aussi, toutes mes félicitations vont à eux.
C'est vrai, c'est un événement. C'est un événement ce dimanche pour Honda. Depuis son retour en 2014, on allait, Jean-Luc, de déconvenu en déconvenu, notamment avec McLaren, même avec Toro Rosso l'an dernier. Et là, ça ressemble à une renaissance.
Ah mais complètement, on allait de Caribe dans Silla. Par parenthèse, je le disais avec humour et un peu de cynisme, très bon choix effectivement de Zak Brown de quitter Honda après 3 ans et de faire profiter Toro Rosso, à l'occurrence Renault, du bon travail effectué par les Japonais. Non, plus sérieusement, c'est vraiment réjouissant parce que ça veut dire que le travail mené par les ingénieurs japonais, on sait qu'ils ont travaillé, mais plus que jamais peut-être encore, avec l'enjeu de savoir qu'ils allaient équiper l'un des meilleurs teams du monde, puisque c'est Red Bull, et ça a été le cas, on monte déjà sur un podium, c'est une très belle entrée en matière là aussi, sur les talons de surcroît d'Hamilton, avec problème ou pas, mais en tout cas, la perf est là, et on est devant les Ferrari, donc je pense que c'est très encourageant, puis il y a un niveau de fiabilité jusque là, pour cette course, Gasly part derrière, il remonte aux portes des points également, on a vu que du côté des Toro Rosso, ça roulait bien aussi, donc c'est plutôt enthousiasmant.
Adrien, sur le moteur Honda.
Ouais, bah c'est plus une question en fait. C'est la question qu'on pouvait se poser avant le début de cette saison. Est-ce que le moteur Honda serait assez performant
pour... Et là, pour toi, c'est réglé.
Pour moi, c'est réglé parce que pour moi, il est aussi bon que le Renault. Je vais me mouiller. Pour moi, il est aussi bon, voire meilleur que le Renault. Il est allé dépasser une Ferrari à la régulière sur un circuit où c'est difficile de dépasser. Donc voilà, le moteur, il est bon. Et puis en plus de ça, en fait, je pense que c'est vraiment le fait de Red Bull, la puissance de frappe de Red Bull, des équipes techniques de Red Bull. Ouais. Je pense que c'est la corrélation entre les Japonais et les hommes de chez Red Bull d'avoir construit une voiture peut-être autour du moteur pour la première fois, et un moteur, voilà, l'intégration et un moteur autour de la voiture aussi. Peut-être que c'est ce qu'a accepté Honda en signant avec Red Bull, chose que Red Bull n'arrivait pas à faire avec Renault. Et c'est le problème principal qu'ils avaient avec Renault. Ils étaient équipe cliente à 100%, et là Red Bull quelque part prend le contrôle aussi un peu du moteur.
Co-produit, co-construit le moteur en quelque sorte, même s'il sort même évidemment des usines Honda. Verstappen, troisième, c'est une surprise peut-être compte tenu de ce nouveau moteur et de le voir aussi performant aussi vite. La surprise aussi, c'est donc de le voir devant les Ferrari qui avaient pourtant pris la tête des essais hivernaux à Barcelone. On attendait le duel Ferrari-Mercedes, on disait même peut-être que la Scuderia est un peu devant la firme allemande cette saison. Et ben pour l'instant, non, quatrième place pour Sébastien Vettel, qu'on va écouter en français et après de sacrés progrès au micro de Lucas Vinoy.
C'est la vérité, aujourd'hui c'était très dur pour moi avec les pneus, pas de grip, pas de performance. Charles était plus rapide, mais j'ai essayé à la fin, quatrième, cinquième pour l'équipe, c'est pas mal, mais une minute derrière le vainqueur, c'est pas bien.
Je crois qu'il parle en français avec Charles Leclerc. Parce que vraiment, il a progressé.
Il a fait une partie de ses études en France.
Mais il refusait de répondre en français.
Il refusait, mais je sais pas, peut-être que là, il était de bonne humeur. Ou alors, il est devenu pote avec Lucas. Je sais pas.
ou l'arrivée de Charles, effectivement, comme tu l'évoques, hein, c'est
bon,
vrai.
En tout cas, ça, c'est anecdotique. C'est ce qui l'est beaucoup moins, c'est la quatrième place de Sébastien Vettel, Jean-Luc. Qui est une surprise, vraiment.
Oui, alors, le plus inquiétant, c'est l'écart. Il l'a souligné, il a terminé là-dessus, parce que, c'est simple, il termine à 58 secondes, il y avait 58 tours. Donc quand on prend une seconde au tour en condition de course, c'est absolument énorme. Alors certes, il a l'honnêteté de le reconnaître, et ça aussi, c'est très très bien de sa part. Charles était plus rapide en fin de Grand Prix. Il avait une stratégie différente, on l'avait arrêté plus tard, et on l'avait monté des pneumatiques plus performants. Donc a priori, il aurait pu et dû peut-être faire mieux que ça. Il n'aurait pas pu revenir sur le duo devant, et c'est pour ça qu'on a préféré chez Ferrari figer les positions. Par parenthèse, donc Mattia Binotto, le nouveau patron sportif de l'équipe, a décidé la sagesse. Il l'avait annoncé, oui. D'ailleurs. Hein. Il avait dit, si au début, il y a une petite question qui se pose, on va légèrement privilégier Vettel. Je pense que ça ne durera pas. Et je crois que si Charles est capable de se qualifier devant Seb en essai, on peut laisser jouer sa carte à Charles, ce qui est une très bonne nouvelle.
Adrien ?
C'est compliqué cette course pour Ferrari, et effectivement on les pensait un peu favoris. Bon, après il fallait vraiment faire un pari pour les donner vainqueurs, parce que connaître le vrai favori après les essais hivernaux, c'est toujours très compliqué. Maintenant ce qui peut-être les rassurer, c'est que ce circuit est original, il a des caractéristiques un peu spéciales, il n'est pas permanent, il y a toujours des soucis de grip, d'adhérence au fur et à mesure du week-end. Enfin, le grip s'améliore, mais il y a toujours des conditions un peu spéciales, donc c'est pas forcément représentatif de toute la saison. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir bosser dur chez les Italiens et trouver des solutions assez rapidement pour espérer sur un rythme de course, déjà en qualification, mais aussi en course, espérer aller se battre avec Mercedes, parce que pour l'instant, c'est Red Bull qui a l'air d'être la deuxième équipe la plus performante en course. Et quand on connaît l'évolution de Red Bull pendant l'année et la force de développement qu'a cette écurie, c'est peut-être eux qu'il faudra surveiller.
Et on parlera de Pierre Gasly tout à l'heure dans le Franchise Corner. Mais d'abord, écoutez Charles Leclerc qui termine donc juste derrière son nouvel équipier Sébastien Vettel à la cinquième place. C'est sa meilleure performance en carrière sur un Grand Prix. Mais évidemment, il atteint d'autres sphères qu'avec Sauber. On écoute Charles Leclerc.
J'avais fait plutôt à mon départ. J'étais troisième à l'extérieur de Seb. Après, je ne sais pas s'il m'a vu ou pas vu, mais il m'a tassé dans l'air malheureusement. Donc du coup, je suis reparti cinquième. Après, voilà, j'ai fait une petite erreur dans le premier stint. Le deuxième stint était plutôt bon. Mais encore une fois, comme j'ai dit, après l'équipe nous a demandé demandé de garder les positions, donc on sait ce qu'on a fait.
Si vous n'avez pas fait anglais deuxième langue, un stint, c'est un relais. Charles Leclerc au micro de Lucas Vinoy. Il passe ses messages quand même, hein, mine de rien, Charles Leclerc. D'abord, Seb m'a un peu tassé, mais peut-être qu'il m'a pas vu. Ensuite, l'équipe a décidé de figer les positions. L'air de rien, comme ça, il le dit.
Tout est clair. On avait bien vu pendant le Grand Prix, effectivement, avec Adrien, on avait bien vu qu'il était remonté quasiment au niveau. Bon, là aussi, c'est viril mais correct. Hein. Il était normal à ce moment-là. Je comprends que Charles, qui a dû s'écarter un petit peu de la trajectoire, le prenne pas forcément très bien. Mais on savait bien que Vettel n'allait pas lui ouvrir la voie, bien au contraire. Et puis, effectivement, à la fin, on a bien compris qu'il avait la capacité de passer devant le présumé leader de l'équipe, en tout cas le quadruple champion du monde, mais qu'on lui a demandé de rester raisonnable pour ce premier Grand Prix, à mon avis, pour ce premier Grand Prix. J'insiste.
En un mot, Adrien, il a fait le taf, Charles Leclerc, pour un premier Grand Prix.
Il a fait le
avec
taf.
Ferrari.
Il a fait le taf, mais je pense qu'il est perfectionniste et qu'il est pas très content de lui au fond. Il a fait une petite erreur dans le premier relais, comme il le disait. S'il fait pas cette erreur, il est plus proche, plutôt, de Sébastien Vettel. Il est sur la meilleure stratégie par rapport à Vettel. En fin de course, on lui dit de rester derrière, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer à la Scuderia. Il a fait le taf parce qu'il finit dans les points et juste derrière son coéquipier. Maintenant, c'est pas là qu'il veut être.
Dans un instant, la suite de Motors en direct sur RMC et RMC Sport News dans le Frenchies Corner. On évoque Pierre Gasly, Romain Grosjean et Renault. À tout de suite, il est 13h25.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h29 sur RMC, RMC Sport News, bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 14h, Motors en direct avec Jean-Luc Roy et Adrien Tambay. Dans un instant, on poursuit le débrief du premier Grand Prix de F1 de la saison, c'était ce matin en Australie, remporté par Valtteri Bottas. Mais d'abord, les directs, c'est la mi-temps entre Clermont et Pau, 19e journée de top 14, Clermont mène 7 à 6 en cours du biathlon, la mass start féminine des championnats du monde, Julie Richard.
Oui, avec le deuxième tir à l'instant même qui se termine pour Célia Aymonier qui était dans le coup avec un sans faute sur son premier tir. Le deuxième tir, elle commet une erreur et elle va repartir avec une grosse vingtaine de secondes sur 5-6 biathlètes. C'est des conditions extrêmement compliquées. Lui, il y a beaucoup de vent, des rafales à 40 km/h, tempête de neige. Justine Brezaz a raté 2 balles sur son premier tir et elle arrive seulement sur le pâtir. Ça va être plus compliqué pour elle dans cette mass start. Il y a 6 filles qui sont reparties et juste derrière, une vingtaine de secondes, on aura donc la première française, Célia Aymonier.
À tout à l'heure, Julien. Le ski, la deuxième manche du slalom messieurs à Sol 2 en Andorre sont les finales de la Coupe du Monde, Morgane Maury.
En tête un Italien, champion olympique en 2010, Giuliano Razzoli, quatrième place provisoire pour Julien Liseroux à 94 centièmes du Transalpin. Il reste encore 13 concurrents à s'élancer, 3 Français, Victor Méfa-Jandet, Alexis Pinturo et Clément Noël, meilleur temps de la première manche.
Merci Morgane, 13h30 dans Motors, on revient au Grand Prix d'Australie et on s'intéresse à nos Français.
RMC Motors, le French's Corner.
Avant de parler de Pierre Gasly, il nous faut évoquer celui qui avait les meilleures chances de terminer dans les points sur le papier. C'est Romain Grosjean qui partait sixième ce matin et qui a encore joué de malchance, comme ça lui arrive souvent en Australie, Jean-Luc.
Il faut reconnaître qu'il y a une sorte de malédiction. Il doit y avoir un koala qui envoie des mauvaises ondes sur l'équipe américaine Haas, parce que l'an dernier, tu t'en souviens, eh bien cette équipe Haas était également brillamment placée en course et puis on s'est arrêté au stand. On a eu un premier problème avec Magnussen qui a dû abandonner et puis malheureusement, un ou deux tours après, c'était le cas de Romain Grosjean. Ben là, il n'y a que Romain qui a été frappé par la fatalité. Au niveau de la roue avant gauche, une nouvelle fois, on a compris tout de suite avec Adrien qu'il y avait un problème puisqu'il a passé une dizaine de secondes arrêté. On voyait bien les mécanos en train d'essayer de fixer cette roue. Et puis malheureusement, après être parti, 2-3 tours après, il a dû s'arrêter avec la roue avant gauche et prise de liberté. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de sortie de piste. Mais ça prive évidemment Romain d'un bon résultat. Il terminait 8e, hein, pour être clair, puisqu'il était derrière Magnussen. Donc Magnussen fait 7. Voilà.
C'est incroyable de voir le même problème de nouveau se produire sur la Haas, Adrien.
Oui, je sais pas si c'est une erreur humaine ou une faille mécanique encore. Il faudra voir si c'est le pistolet ou si c'est... je pense que c'est le pistolet a priori, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de presque inacceptable à ce niveau-là. Quand on est dans les points, quand on est une équipe comme Haas capable de faire une voiture aussi performante, et puis surtout, quand l'erreur a déjà été commise 2 fois.
Oui,
et puis, il y a un an seulement, c'était pas il y a 10 ans.
Ou alors, ils font trop la fête. Melbourne, c'est
compliqué quand même. On en a parlé de cette erreur, on en a parlé partout, même dans le documentaire Netflix. Il y a eu une heure là-dessus. À un moment donné, il faut se concentrer. Je suis un peu dur, mais quand même, c'est beaucoup de points jetés à la poubelle pour une équipe qui a besoin de points, puisque ouais. les points c'est de l'argent aussi, et voilà, c'est important.
Alors des points, le coéquipier de Romain Grosjean en a pris quand même, c'est Kevin Magnussen qui se classe 6e, mais c'est dire aussi le potentiel de l'AS, hein, qui pouvait donc vraiment placer deux voitures dans les points sans aucun problème, et c'est une belle opportunité qui s'est envolée pour les Américains. Pierre Gasly, lui, partait de plus loin sur la grille, 17e position, c'était son premier Grand Prix avec Red Bull, il l'a achevé vraiment au bord des points. Comment juger cette course, surtout compte tenu du podium de Max Verstappen, Jean-Luc ?
Alors, il faut remonter aux qualifications, où là, l'erreur a été commise par l'équipe, qu'il a vraiment reconnue publiquement. On n'a pas permis, pour économiser un train de pneus apparemment frais, on n'a pas permis une deuxième tentative en Q1 à Pierre Gasly, alors qu'on l'a autorisé à Verstappen. Donc moi, je pose déjà la question, j'ose le dire. Bref, pour un dixième et demi, malheureusement, il n'a pas franchi la barre de la Q2 et donc forcément pas de la Q3. Donc il est parti 17e, ce qui hypothéquait gravement ses chances, évidemment, en course. Alors après, Pierre a remonté autant qu'il a pu. À un moment, il pointait même 6 ou 7e à la faveur des arrêts, oui. naturellement, ravitaillement. Et puis il repart, il retombe sur un bouchon russe qui s'appelle Gviat et qui est pourtant chez Toro Rosso. Je dis pourtant parce qu'a priori c'est l'écurie sœur, mais on ne demande pas à Gviat d'ouvrir la voie à Pierre qui est plus rapide manifestement, et il termine aux portes des points, 11e, la plus mauvaise place, c'est ce qu'on peut dire.
Dans un instant, Adrien, ton analyse sur la course de Pierre Gasly, mais d'abord on écoute le principal intéressé au micro de Lucas Vignon.
En partant du 7e, on savait que ça serait compliqué, donc on a essayé ce qu'on pouvait, et puis voilà, je pense que toute la course j'étais à chaque fois 5-10e de la voiture de devant, mais même avec le DRS, très très dur de revenir dans les lignes droites et d'essayer de dépasser, donc j'ai essayé quelques fois, mais c'était pas suffisant.
Adrien, en fait, il l'a perdu hier en qualif, cette course.
Oui, l'erreur elle est hier, hein, clairement. Je sais pas, un peu trop de confiance de la part de Red Bull, ne pas le relancer pour un deuxième assaut. C'était tellement serré au milieu du plateau qu'il fallait. Après, c'est facile de dire ça après, hein. On a vu un Sébastien Vettel qui était seulement un dixième plus rapide que Pierre Gasly aussi.
Oui,
il était
bien sûr.
Il était plus ou moins au même rythme que Max Verstappen, et eux, pour un dixième, voilà, ne serait pas passé. Mais donc il aurait fallu prendre cette option de faire un deuxième run. C'est la première qualif de l'année, le premier et Grand voilà. Prix, c'est important de mettre son pilote dans les meilleures conditions et en confiance, et malheureusement c'est à ce moment-là qu'ils ont jeté un résultat
mais
à la poubelle.
Si j'ose, je ne vais pas faire de mauvais esprit, mais parfois Christian Horner en fait, moi je pose la question, pourquoi on a renvoyé Verstappen au combat en se disant oula, c'est pas suffisant, on n'est pas à l'abri, alors que la piste s'améliorait, et ça nous on le savait aussi, elle s'améliore toujours, plus on roule, plus elle s'améliore. Donc ne pas relancer Pierre Gasly, c'est une faute grave de l'équipe. C'est une manière effectivement d'établir une hiérarchie qui est maintenant établie sur le terrain. Donc écoute, j'espère que c'est juste une vraie erreur, une fois, et que la reste de la saison me donnera tort à ce niveau-là.
Adrien, pas tout à fait d'accord.
Oui et non, parce que de toute façon, en plus, souvent on prend la décision avec le pilote et on sait pas, de notre position, on sait pas ce qui s'est vraiment passé. L'équipe a reconnu qu'ils auraient dû faire repartir Pierre. Mais peut-être que Pierre a dit non, on reste, on garde un train de pneus, et l'équipe n'est pas allée contre l'avis de Pierre. Peut-être que Verstappen a dit non, moi je veux ressortir parce que ça va améliorer. J'ai déjà été dans cette position là et c'est compliqué. Donc nous, on n'a pas tous les éléments à 100% pour juger, et à la première course, j'ose espérer quand même, je suis peut-être naïf, mais je pense pas là-dessus, j'ose espérer qu'ils ont été traités de manière égale, certes avec deux équipes chacun différentes, parce que dans une équipe de Formule 1, on a une équipe technique qui s'occupe d'une voiture et une autre équipe technique qui s'occupe de l'autre, avec des ingénieurs performance et stratégie, où on prend sa décision indépendamment de son coéquipier quand même.
Alors peut-être je suis mal influencé par les documentaires Netflix où on revient sur la manière dont effectivement on a décidé finalement de se priver de Renault, ce qui est tout à fait de choisir Honda, mais on n'a pas été très clair avec Daniel Ricciardo, et on a vu le résultat et on a vu la réponse du berger à la bergère. Donc peut-être je suis influencé par ce climat. Moi je pense qu'on n'est pas du tout naïf chez Red Bull, et je pense pas quelqu'un comme Christian Horner ou comme le docteur
Helmut
Marko, merci beaucoup, je ne pense pas que ce soit des gens qui soient très naïfs, mais bon, la suite nous dira. dira si j'ai mauvais esprit ou si effectivement on a essayé d'établir d'entrée. On sait que Verstappen c'est le chouchou de la maison, hein.
Ah oui.
Bon, on est bien d'accord.
Mais on aime bien Pierre Gasly quand même chez Red Bull et
Helmut Marko par exemple en vente des mérites depuis longtemps et de façon assidue.
Oui, mais le futur champion du monde est annoncé comme tel, c'est Verstappen. C'est Verstappen. J'insiste.
Oui, pour Netflix. On verra. Bon,
il y a quand même deux jeunes pilotes. Alors bon, un français et un francophone, un monégasque, Charles Leclerc, qui sont dans des situations très comparables. Ils arrivent dans des équipes qui peuvent être championnes du monde, qui ont en tout cas cette ambition-là, et ils sont confrontés à un premier pilote, Vettel pour Leclerc, Verstappen pour Gasly, qui a clairement les faveurs de l'équipe, et c'est peut-être aussi légitime compte tenu du palmarès et de l'histoire que ces pilotes ont avec leurs équipes. C'est une sorte d'entre-deux qui va être difficile à gérer, non Adrien, pour à la fois Gasly et Leclerc. Être suffisamment performant pour briller, mais pas trop non plus pour pas jeter d'ombre sur le numéro 1.
Je pense que la situation est sensiblement différente entre les deux, parce qu'il y en a un qui est 4 fois champion du monde, Sébastien Vettel. Ouais. Charles Leclerc arrive... selon moi dans des conditions peut-être un peu plus sereines que Pierre Gasly. Gasly, parce que Pierre Gasly, même si Max Verstappen a une aura dans le paddock,
il est encore champion du monde,
il n'est pas et voilà, il a une aura dans le paddock, tout le monde tout le trouve très agressif, très rapide, en dehors de la piste et sur la piste, très habile aussi, mais il n'est pas encore champion du monde, et on voit aussi Pierre Gasly comme un futur talent et un futur champion du monde en puissance. Si on le met là, c'est qu'on y croit. Donc ils sont un peu plus sur un pied d'égalité, et il va falloir aller beaucoup plus vite, à mon avis, pour Pierre, pour se mettre au niveau de Max Verstappen, que pour Charles avec Sébastien Vettel, parce que quelque part, si Charles était un peu derrière Vettel, ça serait entre guillemets normal. Voilà.
On parlait Jean-Luc, rapidement.
Non, juste, j'allais dire, parce qu'on peut, on peut argumenter, c'est vrai que ça dure un moment, mais on a vu que Gasly était déjà au niveau de Verstappen en essai libre, hein. Parce que je parle pas des qualifs pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais en essai libre, il était avec lui, quoi. Un dixième et demi, ce qui est rien du tout. Donc, puisque c'est l'écart qui séparait également Charles Leclerc de Vettel. Donc, bon, on va avoir des débats internes qui vont être intéressants. J'allais pas dire entre nous, mais à l'intérieur
entre
des écuries.
Aussi, on l'espère bien. Aussi. On parlait tout à l'heure de malédiction pour Romain Grosjean, qui a donc de nouveau dû abandonner ce Grand Prix pour un problème qui n'était pas le sien, qui est une erreur de ses mécaniciens. Autre pilote maudit, c'est Daniel Ricciardo, qui n'a donc toujours pas réussi à grimper sur le podium chez lui, et qui de nouveau, comme il y a 2 ans, a dû aussi abandonner. Écoutez la réaction du nouveau pilote Renault.
Yeah, just I thought the start was okay. I saw Perez didn't get a great one, so there was a bit of room on the inside, so he kind of covered a bit, so I just went a bit more, and because I wasn't sure. When it happens that quick, you don't know how much they're going to go, so you just try and follow their trend, and then just drop the wheel in the grass, and then there was a massive bump or ditch, or I don't know what it was, but that was that. So I don't really know. It's a terrible word, but unlucky, I guess. It was just shame that it happened so quickly as well.
Heureusement, Adrien Tambay est bilingue dans ces cas.
Oui, Daniel Ricciardo tout simplement explique son départ. Il explique avoir pris un très très bon départ, avoir vu Perez avoir un peu de patinage lui à l'inverse, et il a débordé sur la droite à l'intérieur. Perez a couvert la position légèrement. Il s'est retrouvé à devoir prendre un peu la pelouse, et malheureusement il a touché cette bosse, ce retour de piste entre deux patchs de pelouse. Voilà, c'était un peu de la malchance pour lui, et il pensait pas que ça pouvait arriver à cet endroit-là, tout simplement.
Et il a perdu l'aileron avant, donc ce qui a entraîné son arrêt, changement de museau et changement de pneu dès la fin du premier tour.
Et puis, si vous voulez encore plus de Daniel Ricciardo, eh bien vous avez rendez-vous mercredi 20h45 sur RMC Sport 1 dans l'émission de reportage transversal. Entretien exclusif avec le nouveau pilote Renault et son sourire inimitable au micro de Fred Bonzon. 20 minutes d'entretien. Il a ouvert les portes d'Enstone, de l'usine anglaise de Renault, aux caméras d'RMC Sport, et vous découvrirez ce pilote chez lui, dans son usine, au contact de son équipe, et évidemment vous l'entendrez en longueur sur cette saison qui s'ouvre. 13h41 sur RMC, dans un instant Radio Paddock. D'abord un tour de nos directs, on commence par le rugby. La 19e journée de Top 14, Clermont-Pau, Julien Payet.
51 minutes de jeu à Clermont, et Morgan Parra qui s'apprête à tenter une transformation. Ça veut dire que Clermont a marqué un essai par Rémi Grosso il y a de cela quelques instants. La transformation ratée par Morgan Parra. Le score reste donc en faveur de l'ASM, qui mène 15-9 face à Pau. Un essai qui suivait un coup de pied de renvoi de la part des Clermontois à la réception de ce coup de pied de Paloc, qui se gêne, le ballon qui tombe par terre, et Rémi Grosso qui avait bien suivi, qui va aplatir dans l'embut. Clermont mène donc donc 15 à 9 face à Pau à une demi-heure de la fin du match.
Le biathlon, la mastart féminine des championnats du monde à Östersund, Julien Richard.
8 km 800 de parcouru, 3 tirs effectués et c'est une Italienne, Dorothea Wierer, qui est en tête avec un sans faute juste pour le moment, 15 sur 15. C'est plus compliqué pour les Françaises, Justine Brezaz qui est à 1 minute et 26 secondes, un peu plus même maintenant, avec 3 fautes au tir. Célia Emonier, 4 fautes, elle est en 20e position environ, à plus de 2 minutes de la leader. Donc Dorothea Wierer, 8e place pour Justine Brezaz au dernier intermédiaire à 1 minute 28 secondes de la leader. Elle est à en gros 30 secondes du podium. C'est encore jouable hein, sur le dernier tir notamment.
Et puis le ski, la dernière course de la saison, slalom homme à Soldeu en Andorre, Morgane Morilli.
À 7 dossards de l'arrivée, en tête l'Autrichien Manuel Feller devant l'Italien Giuliano Razzoli. 4e place provisoire pour Victor Mufajandé. La 10e pour Julien Lizeroux. Reste 2 tricolores. Dans 2 dossards, Alexis Pinturo, puis Clément Noël qui a été meilleur temps de la première manche.
À tout à l'heure Morgane pour le passage des Français. 13h43 dans un instant Radio Paddock au programme de Motors qui se poursuit jusqu'à 14h.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h44, Motors se poursuit en direct jusqu'à 14h sur RMC et RMC Sport News avec Jean Lecroix et Adrien Tambay. Dans un instant, Radio Paddock, parce que Benoît Boutron nous a rejoint et qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Mais d'abord les directs, le biathlon, d'abord la mastart féminine des championnats du monde, Julien Richard.
Allez, c'est le moment décisif de cette mastart et pourquoi pas croire à un exploit de Justine Brezaz. Ça va être compliqué, on vous le cache pas. La situation de course, on est sur le dernier tir. Dorothea Wierer est seule en tête, elle a 30 secondes d'avance. On rappelle les conditions météo, il y a énormément de vent, énormément de bourrasques, plus de 40 km/h, de la neige, ça tombe et c'est très compliqué de tirer. Mais d'ailleurs Dorothea Wierer, la leader, qui vient de commettre 2 erreurs, 2 fautes, elle va tourner 2 fois sur la note pénalité. C'est en gros 40 secondes de perdu. Donc ça veut dire qu'il peut se passer encore énormément de choses sur ce dernier tir vu les conditions. Et Justine Brezaz est en 7e position, elle va arriver, elle passe devant nous là à l'instant, elle va aller s'installer derrière le pas de tir d'ici quelques instants. C'est une Russe qui est en 2e position et Denise Hermann, l'Allemande, en 3e position. 4e place pour la Norvégienne Roiseland. Jurlova, la Russe, qui tire très bien, ça c'est pas un bon signe pour Justine Brezaz. Une erreur pour Jurlova qui s'en sort très très bien sur ce tir. Elle va aller décrocher le podium très certainement. C'est vraiment pour le bronze que ça va se jouer maintenant tout de suite avec Hermann, Roiseland, Makarainen qui sont en train de s'installer sur le pâtir, alors que Justine Brezaz est en train elle aussi de s'installer. Une faute pour Roiseland pour l'instant. Hermann, c'est un sans faute, ça a l'air de s'être calmé au niveau du vent et ça c'est pas une bonne nouvelle. Makarainen, une faute. Hermann est sur en passe de faire le sans faute. Une faute pour Hermann. Allez, Justine Brezaz va déclencher sa première balle dans quelques instants. Si elle fait le sans faute, Justine Brezaz, eh bien elle pourrait essayer de jouer sa place sur le podium sur le dernier tour. Mais maintenant faut les mettre ces balles et je peux vous dire que c'est vraiment vraiment pas facile. Et d'ailleurs la première est ratée. Allez, ce sera terminé, il y aura pas de podium les Françaises. 2 fautes déjà pour Justine Brezaz. Elle a tenté le tout pour le tout, elle a pris des risques mais ça ne passera pas malheureusement pour la Française. On va juste suivre peut-être les 2 derniers tirs. Voilà, encore une faute. Allez, c'est terminé, 3 fautes pour Justine Brezaz qui va aller tourner 3 fois sur la note pénalité.
Merci Julien, à tout à l'heure. Et puis il y aura une mastart masculine cet après-midi, ça sera à 16h, on suivra ça dans l'intégral sport. Ça sera la dernière course de ces championnats du monde de biathlon. Le ski, Morgane Maury, slalom homme à Soldeu en Andorre.
Alexis Pinturo est dans la pente, il était 5e de la première manche et son avance a fondu comme neige au soleil. Il fait plus de 15 degrés en Andorre et Alexis Pinturo qui avait de l'avance en haut, et bien il se retrouve avec beaucoup de retard, 4e au pied du podium à 94 centièmes de l'Autrichien Manuel Feller. Reste à s'élancer Henry Christophersen, Daniel Yule, Ramon Zenhorzen, puis Clément Noël, meilleur chrono de la première manche et qui est la seule chance de médaille, de podium, voire de victoire pour les tricolores pour cette dernière course de la saison.
Merci Morgane. Un essai était inscrit entre Clermont et Pau en top 14, Julien Théier.
Le jeu à Clermont, un essai pour Pau qui revient sur les talons de Clermont. Clermont est en danger sur sa pelouse. Il ne mène que 15 à 14 face aux Palois après 55 minutes de jeu.
Merci Julien. La suite de tous ces directs après 14h dans l'intégral sport avec Christophe Cessieux. 13h47, Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god!
Radio Paddock.
Bonjour Benoît Boutron.
Salut à tous, salut tous les trois.
Salut Benoît.
Comment ça va Benoît?
Bah ça va, c'est pas parce que la F1 a repris qu'on va oublier les autres disciplines.
Mais exactement, on compte sur toi.
Oui. Bah oui, ça vous a servi là pour remplir Motors pendant des semaines et des semaines.
Rempli.
N'oubliez pas le MotoGP, le WEC et compagnie. Hein.
Fais attention, tu as dit rempli mais tu pensais meublé. On le sait. On le sait.
Évidemment.
On commence avec la moto.
Et oui, le MotoGP, puisqu'il y a une polémique, vous avez vu ça après le Grand Prix du Qatar, victoire de Dovizioso. Ouais. Polémique entre Ducati et quatre autres écuries. En fait, Ducati a gagné, donc Ducati jusque-là pas de problème. Quatre écuries sont pleins en fait. Suzuki, Aprilia, Honda et KTM. La raison, ils reprochent à Ducati d'avoir utilisé. Alors là, attention, il va falloir que Louis Amar nous explique.
Ah,
un spoiler sur le bras oscillant d'une de ses motos. Enfin, des
c'est
trois
facile,
motos d'ailleurs.
C'est facile.
Alors.
C'est facile.
Pour schématiser, on a un peu discuté avec Jean-Luc.
Moi, sinon, ça va être trop technique, je vais être trop pointu, vous allez passer.
C'est une sorte de gouttière, en fait, sur le disque du pneu arrière, c'est ça le disque de frein du pneu arrière?
Ça, c'est la partie, concernant, tu as parlé d'abord de l'arrière. Là, c'est une sorte d'aileron à l'envers. C'est-à-dire que, d'accord. En fait, c'est,
journal moyen. Alerte, journal moyen. Une sorte d'aileron à l'envers, c'est gagné. C'est bon.
Parce que, effectivement, ça ne cherche pas à procurer de l'appui. Ça cherche à détourner le flux d'air du pneu arrière. Donc, à mon sens, comme la rotation de la roue, bien sûr, engendre des turbulences aéro, on gagne un petit peu de finesse et de vitesse de pointe à plus de 300, à 350 km/h. Hmm. Déjà que les Ducati sont rapides. Alors, ce dont tu parles également, c'est un espèce de carénage ou d'emballage des disques de frein sur la roue avant et en dessous de ces disques. Là aussi, je pense qu'il y a des turbulences engendrées par les disques à moto qui sont visibles de l'extérieur, mais ceux qui ne sont pas, qui sont des disques en carbone. Hein. Donc, on peut très bien les protéger, qui fonctionnent à 800 ou 1000 degrés. Et donc, du coup, on gagne encore un petit peu de finesse aéro. Les deux additionnés, ça doit faire peut-être quelques petits kilomètres heure qui déplaisent. C'est vrai qu'on a maintenant, on l'a vu, hein, des sortes d'ailerons de chaque côté. Des carénages, des motos.
Et vous savez à qui appartient Ducati ?
Oui.
Hein, appartient à Audi.
Ah oui.
Et Audi sont très forts en aérodynamisme et c'est sûrement une des trouvailles, en tout cas de l'exploitation du règlement pendant l'hiver.
Cette pièce avait été autorisée d'ailleurs par les dirigeants du MotoGP. En fait, le problème pour les quatre constructeurs qui se plaignent, c'est que la raison pour laquelle elle a été installée sur les Ducati, d'après Ducati, c'est pour refroidir le pneu. C'est ça, en fait, hein, Jean-Luc, ce qui est autorisé pour l'instant. Sauf que pour les quatre écuries, ça apporterait un appui aéro supplémentaire. Donc là, il y a une enquête qui est ouverte, effectivement, il y a une plainte devant la cour de la FIM, la Fédération Internationale de Moto, évidemment. Décision rendue le 22 mars, donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats du Grand Prix de MotoGP du Qatar sont gelés.
Et oui, d'accord, ils sont soumis à appel. Effectivement, juste pour ajouter un mot dans le sens de ce que disait Adrien, c'est que c'est sur les Ducati qu'on a vu apparaître il y a deux saisons, maintenant, les premiers ailerons, des vrais ailerons, qui ont été interdits rapidement, et c'était normal pour des raisons de sécurité, parce que malheureusement, il y a des chutes à moto, et si jamais un aileron comme ça, on n'imagine pas tomber sur un pilote, c'était dramatique. Donc, il y a des éléments aéro maintenant sur les carénages, mais qui sont beaucoup plus enrobés, beaucoup moins agressifs, on va dire ça comme ça.
Parce qu'il n'y a pas de halo en moto.
Il n'y a pas de halo, c'est une très bonne nouvelle également. Et ça n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas dans les deux saisons qui viennent.
Un peu d'électrique pour garder Jean-Luc sous tension, justement.
Heureusement qu'il n'était pas à Jerez cette semaine, puisque...
Pourtant, je suis branché, hein, je vois pas ce que vous voulez dire.
Ça. Le championnat du monde de moto électrique, ça devait démarrer d'ici quelques semaines, début mai, donc ce championnat qui débute cette année,
en
c'est une grande première. En Espagne. Et jeudi dernier, le paddock était réuni en fait à Jerez pour faire des essais avant saison. Problème, dans la nuit, il y a eu un incendie qui a ravagé le hangar où étaient stockées la plupart des machines. 23 motos ont brûlé. Ça a duré 6 heures. Hein. Les pompiers ont mis 6 heures pour éteindre l'incendie. C'est quand même assez incroyable. Et il y a eu beaucoup de dégâts, évidemment. Il n'y a eu aucun blessé, ça c'est le principal. Ce qu'on peut vous préciser, c'est que c'est une unité de rechargement en fait qui a provoqué l'incendie. Donc c'est un problème électrique, en fait un court-circuit.
Qui
a provoqué cet incendie. Mais, et ça a des conséquences sur le championnat. C'était déjà un championnat un petit peu particulier.
Oui, je crois qu'il y avait que 5 courses
au
départ.
Voilà, c'est ça, 5 courses au départ. Celle de Jerez qui était prévue le 5 mai est d'ores et déjà annulée. Ça pourrait démarrer en France le 19 mai au Mans, puisque c'était le deuxième Grand Prix qui était prévu. Et on rappelle juste le format de cette moto électrique. Hein, c'était les week-ends de MotoGP. Deux séances d'essais libres, une qualif et une course de 15 minutes seulement. Oui, ce sont des motos électriques. Il y a très peu d'autonomie. Ouais. Donc, fallait faire la différence assez rapidement.
Vous le savez, RMC c'est la radio des sports méca, mais c'est aussi la radio du direct. Clément Noël est sur le point de débuter sa deuxième manche à Soldeur en Andorre. Morgan Maury, slalom masculin.
Il va partir dans une trentaine de secondes, 20 secondes pour Clément Noël qui a remporté deux courses cette saison, le slalom de Wengen, le slalom de Kitzbühel. Malheureusement, il n'était pas monté sur le podium des championnats du monde alors qu'il était grand favori pour une médaille. Et bien pour la dernière course en Coupe du Monde de la saison, il a été prodigieux sur le premier tracé. Il va s'élancer avec une avance très confortable, 1 seconde 68 sur l'Autrichien Manuel Feller. Mais cette piste s'est énormément dégradée au fur et à mesure des passages des skieurs, et tous ceux qui se sont élancés après Feller ont été incapables de devancer l'Autrichien. Daniel Juhl, le Suisse, Zennhausen, l'autre Suisse, sont passés derrière le champion autrichien, et c'est parti pour Clément Noël, une 1:68 d'avance dans la cabane sur Feller. Il joue sur du velours, s'il skie à son niveau dans le ski de la première manche, il est capable d'aller prendre sa troisième victoire de la saison. Elle est partie très vite sur la partie la plus rapide, et bien il a augmenté son avance de 6 centièmes, 1:74 sur Feller. Le passage de la double pour Clément Noël, dans un instant il va entrer dans une partie plus tactique, plus tournante, où les grands gabarits comme le sien peuvent être désavantagés. Le passage de la banane, c'est très bien, il est aisé Clément Noël, mais là il a mis un petit coup de frein et il a perdu de son avance. 11 centièmes d'avance seulement sur Manuel Feller, c'est un mano à mano entre les deux hommes, ne rien lâcher. Là aussi il a un peu ripé, il est venu poser la main sur la glace en dorade, mais la vitesse est là pour Clément Noël, c'est un gros braquet, il est en train d'emmener sa vitesse au bas de la piste. Le troisième intermédiaire est bon, 38 centièmes d'avance pour Clément Noël sur Feller. Est-ce qu'il va aller claquer sa troisième victoire de la saison à 21 ans? Ce serait prodigieux, il n'y a que Marcel Hirscher qui fait ça dans une saison de Coupe du Monde. Et Clément Noël, il est devant, victoire pour Clément Noël, et 18 centièmes d'avance, la victoire en terre andorrane, le point droit levé vers le ciel, vers le soleil. Eh bien quel week-end pour le ski français, le lendemain des adieux de Thomas Fanard à 37 ans, victoire de Alexis Pinturo et victoire de Clément Noël. Il s'en tient les abdominaux, il n'en croit pas ses yeux, victoire de Clément Noël, sa troisième de la saison devant Feller et Juhl. 8e place pour Alexis Pinturo, 9e pour Victor Mufajandé, la 17e pour Julien Izrou. Les Français terminent très fort cette saison de Coupe du Monde.
Merci Morgane. On valide le résultat de la Mastart féminine en Suède, c'est les championnats du monde de biathlon, Julien Richard.
Avec la victoire et le premier titre mondial dans la carrière de Dorothea Wierer, l'Italienne qui s'impose devant la Russe Yurlova et l'Allemande Denise Herrmann. La première Française vient à l'instant de franchir la ligne d'arrivée avec 6 fautes au tir. C'est Justine Brezaz, 15e à 1 minute et 50 secondes de la vainqueur du jour. Célia Aymonier vient de passer elle aussi à la ligne d'arrivée à la 20e place.
Merci Julien, à tout à l'heure. Benoît, on termine Radio Paddock avec un mot de Fernando Alonso.
Évidemment, le WEC, c'est ce qui nous intéresse pour Fernando Alonso. Encore une victoire pour lui. Les mini-miles de Sebring, il a remporté donc cette victoire avec Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. Il a même terminé avec un tour d'avance sur l'autre voiture, donc Toyota. Donc tout va bien pour Fernando Alonso qui domine le championnat du monde. Ça a été un peu perturbé d'ailleurs ce circuit en Floride, Jean-Luc, oui, puisque on a fait moins de kilomètres à cause de la pluie et des différents drapeaux.
Il pleut en Floride.
Et quand il pleut, il pleut vraiment.
Il revient toujours bronzé, Jean-Luc.
Il revient pas mouillé. C'est tropical.
Ça tombe beaucoup, pas longtemps, mais ça tombe beaucoup et ça peut perturber les courses. Faut savoir que Sebring, on n'a pas le temps, je sais bien, mais bon, un mot.
Allez,
parce
un
que
mot.
C'est une ambiance extraordinaire. Ouais. Quand on aime la course automobile et la course automobile américaine, là, c'est un vrai régal. Il y a une partie qui emprunte un aéroport avec des plaques et c'est l'ambiance, mais c'est un vrai circuit. Je rappelle, tiens, je vais terminer là-dessus que Steve McQueen avait terminé 2e des 12 heures de Sebring en 1969 aux commandes d'une Porsche 908 en compagnie de Peter Revson. Voilà une belle évocation.
Merci Jean-Luc, on te retrouve tout à l'heure dans l'Intégral Sport pour parler Formule 1. Merci Adrien, on te retrouve ce soir, merci, dans le RMC Sport Show autour de Jean-Christophe Drouet. Benoît, tu passes l'après-midi, on passe l'après-midi évidemment ensemble dans l'Intégral Sport. Et puis, Grand Prix d'Australie remporté ce matin par Valtteri Bottas, épisode 2 dans 15 jours à Bahreïn. Tout de suite l'Intégral Sport avec Christophe Sessieux. Moi, je me retrouve à 16h. Bonne journée.
RMC Motors avec Motorsport TV.